Top, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Il est 9h40 donc sur France Inter.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous voulez me spoiler?
Spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Éric Nolot est-il polémologue ou polémiste? Spécialiste en polémologie, je vous jure que ça existe, ou prompt lui-même à déclencher la polémique en zigouillant les uns de son verbe acéré ou en défendant les autres de sa verve enflammée. Toujours, évidemment, c'est plus marrant, à rebours de ce qu'il qualifiera, lui, d'avis dominant. Critique littéraire, compagnon débatteur d'Éric Zemmour depuis une décennie, Nolot lance son propre show dans la galaxie de Cyril Hanouna. Ça commence ce soir sur C8 à 23h30. Ça va s'appeler « De quoi je me mêle ?». Ça promet de balancer à Paris et ailleurs. De quoi? Qu'est-ce qu'il veut, Nolo? Eh bien, il veut de la culture, des témoignages incroyables et des invités polémiques.
Grrr. L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Vous êtes le bienvenu, Cyril Hanouna. Bonjour.
Merci, bonjour.
De quoi je me mêle? De quoi je me mêle?
Ben, je me mêle comme tous les Français de ce qui nous regarde.
Ça, c'était Cyril Hanouna, votre producteur, interviewé par Jean-Pierre et El Kabbach. C'est devenu le titre d'une émission, la vôtre. Bonjour, Éric Nolot.
Bonjour, Sonia. Bonjour à tous.
Est-ce que vous vous considérez vous-même comme un invité polémique pour l'instant M?
Non, je me réclame pas vraiment de la polémique. Ça peut arriver dans une conversation, ça peut arriver dans un débat, mais je viens pas pour créer la polémique. Je viens pour que les avis s'affrontent et que on en sorte un peu plus instruit que quand on était arrivé. Si ça prend la forme de la polémique.
Pourquoi pas?
Allons-y, mais c'est pas une obligation.
Alors, on va en parler et on va y réfléchir ensemble. On commence par votre entrée dans la galaxie. Hanouna, vous faites partie des chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Pour l'émission et pour Paris Match, vous êtes allé interroger la grand-mère de Yann Moix et vous l'avez filmé.
Il a toujours été rabaissé, humilié, était toujours puni quand il ne le méritait pas. Ce que je reproche toujours un peu à ma fille, c'est que elle écoutait trop ce qu'Alexandre racontait. C'est Yann qui m'embête, et elle cherchait pas à comprendre. Alors c'était Yann qui prenait, puis Alexandre rigolait en douce. Il se réjouissait que ce soit son frère qui se soit disputé.
Qu'est-ce qu'elle a à faire, sincèrement, sur un plateau télé, cette petite dame très âgée?
Eh bien, elle a
Est-ce
à nous
qu'on
dire...
pouvait pas la laisser tranquille?
Elle a à nous dire sa vérité sur une affaire de famille très compliquée et sur ce que je considère une grande injustice faite à Yann Moix, c'est-à-dire que la victime est présentée comme le bourreau, l'enfant martyr est présenté comme celui qui a maltraité son frère.
C'est vrai que vous titrez le sujet sur le plateau et ça prend toute la largeur de l'écran. La vérité, enfin la vérité, avec un point d'exclamation. Quelle vérité, Éric Nolot? Une mamie qui a une passion pour son petit-fils?
Non,
mieux,
c'est quelqu'un qui a été très proche de ses petits-fils, qui les a gardés en vacances, qui sait de quoi ils retournent, qui connaît tous les secrets de la famille et qui sait, c'est aussi mon opinion, c'est la sienne, c'est la mienne, que ce que raconte le frère de Yann Moix, Alexandre Moix, est faux. Et qui, ça relève plutôt d'une démarche psychiatrique que d'une démarche de vérité dans son sens. Et je crois que vous dites qu'est-ce qu'elle venait faire sur ce plateau.
Oui, elle avait envie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'indécent?
Non, elle avait envie de parler et ne me demandez pas pourquoi, parce que je ne lui ai pas posé la question. Elle ne voulait parler qu'à moi. Donc, il me semblait que ça faisait beaucoup de raisons pour faire cette
entretien. Alors, vous, justement, le critique littéraire, le lettré de haut vol, qu'est-ce que vous en avez à cirer de la vérité en littérature?
J'en ai à faire de la justice. Je trouve qu'il y a une grande injustice faite à Yann Moix. Et je voulais vérifier une intuition littéraire. J'ai été convaincu littérairement par Yann Moix.
Par le texte, du livre.
De Orléans, qui est présenté certes comme un roman, mais après, Yann Moix a expliqué que c'était en très grande partie, inspiré de faits réels. J'ai voulu vérifier si cette intuition littéraire résistait à la réalité. Et de mon point de vue, c'est le cas.
Alors, si vous vous préoccupez du coup, en interviewant cette dame, si vous vous préoccupez des polémiques en dehors du livre, c'est-à-dire l'intervention de la famille du frère, est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui on se fiche pas mal de savoir si oui ou non il a coincé les doigts de son petit frère dans la persienne, etc., alors qu'il lui est reproché d'avoir produit des écrits et des dessins violemment antisémites et négrophobes, d'avoir plaidé l'erreur de jeunesse alors qu'il continuait manifestement à fréquenter des négationnistes jusqu'à il y a peu? En réalité, c'est plus un sujet littéraire, c'est plus une affaire de famille.
Les deux sujets sont très liés.
Pourquoi?
Est-ce que vous pensez vraiment que la révélation de ces dessins antisémites qui me choquent autant que vous sont le fruit du hasard? Moi, je pense que non. Je pense que c'est lié au conflit familial. Je pense que la divulgation vient de la famille. Donc les deux affaires.
Il n'empêche que les textes et les dessins
oui,
sont là.
Les deux affaires.
Et que vous
sont...
faites comme si ça n'existait pas.
Non, pas du tout. Pas du tout. J'en ai parlé longuement sur d'autres chaînes, évidemment, que France Inter. Vous n'écoutez pas forcément, mais je me suis exprimé assez longuement. Je regrette d'ailleurs. Je voudrais n'être que sur France Inter, mais parfois je suis invité ailleurs. D'abord, les deux affaires sont intimement liées. Et ensuite, pardonnez-moi. Ces dessins et ces textes, aussi odieux soient-ils, ils me choquent, je le répète, datent de 30 ans. Et en 30 ans, Yann Moix a fait beaucoup de choses.
Et ses fréquentations beaucoup plus récentes d'un cercle de penseurs négationnistes.
Écoutez, ça, qu'il ait des amitiés douteuses, personne n'en doute. Moi, je me fie au texte. C'est devenu un philosémite. On lui a reproché son philosémitisme. C'est que c'est quelqu'un qui est complètement entré dans la culture juive, qui en est devenu presque obsessionnel. Est-ce qu'un homme a le droit de changer ou est-ce qu'on va lui reprocher encore pendant 30 ans? C'est quand même étrange définir un homme sur un égarement de jeunesse et de dire les 20 livres qu'il a publiés depuis, tout ce qu'il a fait depuis, tout ça ne compte.
Ça lui a été simplement reproché à l'aune de ses amitiés négationnistes. Tout le monde n'a pas des amis négationnistes.
Oui, mais c'est les dessins.
Est-ce que c'est votre ami Yann Moix?
C'est devenu un ami alors que, ou en tout cas quelqu'un que j'aime beaucoup, alors qu'on a commencé très très mal, on s'est mis sur la gueule sur tous les plateaux de France et Navarre.
C'est vrai.
Alors quand on me présente maintenant comme un ami de longue date de moi, que c'est pas
non,
vrai.
Non, je vous pose
regardez
simplement
sa balance
la question
à Paris,
que...
regardez, on n'est pas couché,
moi,
on s'est mis sur
CPMP,
la gueule de manière...
Moi je regarde CPMP, touche pas à mon poste, l'émission de Cyril Hanouna dans laquelle vous êtes chroniqueur, je le rappelle, émission populaire, émission antiraciste, là-dessus il est irréprochable Hanouna, en règle générale. Et souvent...
Première fois que j'entends irréprochable et Hanouna dans la même phrase,
j'ai bien fait de... Hanouna, oui, il a fait un boulot là-dessus. Ah bah, sur l'antiracisme, il a fait un boulot, et ça, je l'ai toujours reconnu, et je l'ai déjà exprimé publiquement.
Ah bah, des propos juste sur Hanouna, je suis tellement peu habitué que...
Je vous dis. En revanche, quand on vous regarde là tous prendre la défense de Yann Moix, on se demande si vous défendez la vérité ou si vous défendez un ami. Je vous dis ça parce que cette émission a pour habitude de qualifier telle ou telle personnalité en disant « ces gens-là, eux, ils ont la carte ». Eux, ils font partie d'un petit club qu'on n'attaque pas. Est-ce que vous ne vous demandez pas si le téléspectateur se dit pas « Yann Moix, il a la carte ». Il fait partie du club d'Éric Nolot. Il a des défenseurs sur les plateaux.
Ben c'est très intéressant ce que vous dites.
C'est la question que je vous pose.
C'est très intéressant parce que, un, le débat était contradictoire. Il y avait des chroniqueurs d'Hanouna qui prenaient violemment parti contre Yann Moix. Mmh. Et puis, je vous rappelle quand même qu'il a perdu son émission sur Paris Première et qu'il a été éjecté de la liste du Goncourt, ce qui, pour un écrivain, est quand même quelque chose de grave. Alors, vous pouvez m'expliquer qu'il a la carte. Moi, je me demande ce qui arriverait à quelqu'un qui n'aurait pas la carte.
Je vous parlais de votre démarche à vous sur le plateau.
Non,
un
moi,
autre
je vous ai expliqué, ça part du
oui,
livre.
Oui, mais
ça part du...
On a
je suis convaincu et je trouve que l'interview de la grand-mère et tout ce que j'ai pu mener comme enquête corrobore ce que j'ai ressenti à la lecture.
Interview
après,
que
j'ai l'estime pour Yann Moix, c'est vrai,
également.
C'est une estime récente parce qu'on s'est vraiment...
Paris,
on a passé notre vie à se mettre sur la gueule. Voilà.
Ouais. Un autre de vos amis de longue date, et pour la vie, le clamez-vous, c'est Éric Zemmour. Alors, la rumeur devient de plus en plus insistante. Peut-être que vous allez faire partie du même groupe de télévision, le groupe Canal+, vous sur C8, je l'ai dit, dans la galaxie Hanouna, lui sur la chaîne d'info CNews. Et ce, malgré une condamnation à l'exhortation à la haine raciale suite à des propos tenus dans l'émission C'est à vous en septembre 2016.
Quoi ? Qu'est-ce que vous faites avec les musulmans en France ? Est-ce que vous les mettez à part ? Est-ce que vous les chassez ? Est-ce que vous leur interdisez d'exercer leur
religion ? Je pense qu'il faut leur donner le choix entre l'islam et la France.
C'est ça. Donc s'ils sont français, donc, ils ne pratiquent pas l'islam.
S'ils ne sont français, ils doivent, mais c'est compliqué parce que l'islam ne s'y prête pas,
renier
reconnaît. Non, ils ne doivent pas renier leur religion, ils doivent se détacher de ce qu'est leur religion.
En quoi est-il aujourd'hui légitime dans le débat public, Éric Zemmour ? Quand je parle de débat public, je parle d'un débat médiatisé, d'un débat public à la télévision.
Ben, il est légitime en tant que personne qui représente un courant de pensée dans lequel se reconnaissent beaucoup de gens en France. Beaucoup de lecteurs. C'est quelqu'un qui vend énormément de livres et il fait de l'audience à chaque fois. Donc des gens se reconnaissent en lui. Donc moi je pense que je suis en désaccord total avec la phrase qu'il a prononcée par ailleurs, mais je trouve qu'il fait partie du débat public et je vois pas en quoi et au nom de quel principe on l'interdit.
Au nom de la loi.
Au nom de la loi,
mais
est-ce qu'il y a une loi qui interdit à quelqu'un de s'exprimer sur la base d'une condamnation?
Vous voyez bien que là,
mais
c'est
vous répondez
plus
de vos propos
affaire...
devant la justice éventuellement.
Voilà, c'est plus une affaire d'idéologie, de point de vue, de c'est embêtant de tendre un micro, de proposer une émission à quelqu'un qui est reçu en majesté par Louis Alliot, qui est frontiste à Perpignan. C'est la loi qui parle et qui est la même pour tous. C'est-à-dire, on parle de quelqu'un qui est condamné par la loi. Par exemple, la réaction de Gérard Miller qui dit. Pourquoi dans ces cas-là confier une émission à Éric Zemmour et pas à Alain Soral ?
Mais ça c'est la responsabilité des chaînes. Moi je me place pas sur ce plan-là.
Qu'est-ce qui fait qu'un Alain Soral est infréquentable ? Il est infréquentable
Autour de lui, il y a plein de gens, des Noirs, des Arabes, mais il y a même des Juifs qui fréquentent Alain Soral. Alors
mais tous les antisémites ont leurs Juifs, hein, c'est une règle.
Et ils disent, non mais vous savez, ce monsieur n'est pas raciste. Qu'est-ce qui fait qu'il est infréquentable? Qu'il a été condamné par la loi. Éric Zemmour est condamné par la loi.
Moi je travaille avec Zemmour, et il n'y a rien qui interdise, dans la loi, Zemmour de s'exprimer à la télévision, d'avoir une émission, d'être chroniqueur, d'être animateur. Donc c'est la responsabilité de la chaîne. La mienne, c'est pas celle-là. Je suis pas juge, je suis pas président de chaîne, je suis quelqu'un qui apporte la contradiction à Zemmour. Donc je peux vous dire quel est mon boulot, c'est de contredire les idées de Zemmour avec lesquelles je suis en désaccord, dont celle qu'il vient d'exprimer, qui me paraît incroyable, parce qu'il y a une essentialisation des musulmans, moi, que je trouve choquante, mais c'est pas mon boulot de dire est-ce qu'il a sa place dans une émission. Moi, je crois que oui, par ailleurs, parce que des gens se reconnaissent en lui, et que je préfère que les opinions s'expriment au grand jour sur une chaîne de télévision plutôt que sur des sites plus ou moins occultes sur Internet.
Est-ce que vous avez lu le livre que vient de publier Gérard Noiriel, qui est historien et sociologue, qui propose une comparaison pied à pied de la rhétorique et de la mécanique rhétorique de Édouard Drumont, journaliste polémiste antisémite dans les années 30, et de Éric Zemmour aujourd'hui?
Non, cette maison d'édition, c'est la différence, c'est ça. La découverte. La découverte qui me fait très très peu de service de presse a eu l'amabilité de m'envoyer celui-là, ça ne doit pas être un hasard. Je ne l'ai pas lu encore, j'ai lu les interviews qu'il a données dans la presse qui ne m'ont absolument pas convaincu. Déjà, le parallèle entre deux personnages aussi éloignés, deux époques aussi éloignées d'un point de vue historique, je trouve ça douteux. Maintenant, comme j'ai l'habitude de m'exprimer sur la base de mes lectures, je lirai ce livre et je vous en ferai une critique un peu plus détaillée.
Avec plaisir.
Ça ne me donne vraiment pas envie, les interviews... J'ai trouvé ça nul. Les interviews de Noiriel, je les ai trouvées absolument nulles et pas très scientifiquement fondées.
Bon, je rappelle qu'il est directeur de recherche à l'EHESS. Allez, de quoi je me mêle, c'est vous ce soir sur C8 à 23h30.
Tous les jeudis, je vous donne rendez-vous dans De quoi je me mêle sur C8 pour débattre avec des invités qui, d'une manière ou d'une autre, font parler d'eux. Pas de langue de bois, pas de coupure au montage, on est en direct. Et comme on dit à la NASA, ça va fuser.
Moi, ça me fait rire comme quand on dit...
Vous êtes notre public. Alors, si ça vous fait rire, vous allez adorer l'émission.
Alors, des émissions qui font parler d'eux, pas de montage. Est-ce que là, il y a un petit clin d'œil à Catherine Barma et à Thierry Ardisson?
Vous avez l'esprit tellement mal placé, j'y ai pas pensé une seconde.
Il a quand même animé pendant des années une émission qui s'appelait « Tout le monde en parle ». Et le propre de la télé fabriquée par Ardisson et Barma, c'est de tout monter et de tout couper.
C'était le cas dont On n'est pas couché aussi, toujours l'école Barma. Sûr, alors, j'avoue, j'y ai pas pensé. Moi, j'ai très peu pratiqué le direct, et je le pratique maintenant beaucoup parce que c'est l'école Hanouna, et ça me plaît. Je trouve qu'il y a une tension supplémentaire, je trouve que tout le monde est plus dans le coup, plus concentré, il y a moins d'incidents, curieusement, que quand on enregistre. Mais alors vraiment, vous me prêtez des arrière-pensées qui sont bien éloignées de moi.
Alors, vos invités ce soir, Sylvie Testu, Rocco Siffredi, Dave, l'actualité culturelle, dans le communiqué de presse de la chaîne, c'est précisé que Éric Nolo promet des invités polémiques. Qu'est-ce qu'un invité polémique en 2019?
Un invité polémique en 2019, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à aborder tous les sujets que normalement des artistes n'abordent pas parce qu'ils ont peur de cliver, que ça soit pas bon pour leur carrière, que ça soit pas bon pour
les films. Donc c'est pas la personnalité elle-même qui est polémique, c'est sa capacité à s'exprimer.
Ça peut l'être.
Ça peut être
les deux, mais en général, les artistes sont très très surveillés par les attachés de presse. On leur demande de pas sortir de la promo pure de ce qu'ils viennent présenter. Mon pari, c'est d'essayer de les en sortir, tout en présentant ce qu'ils sont venus.
Éric Zemmour, Yann Moix, invité de Quoi je me mêle? Voilà des invités polémiques?
Ah mais pourquoi pas? Ils sont qualifiés.
Ils sont qualifiés pour le job. Mais ils sont prévus?
Non, c'est pas prévu.
Ils sont pas prévus. Enfin, d'accord.
Si vous me demandez si un romancier a sa place dans De quoi je me mêle en parlant de Yann Moix, ma réponse est oui.
Pourquoi avoir besoin de polémique? Pourquoi promettre la polémique? À quoi ça vous sert?
Moi, je la promets pas. Je promets qu'il va se passer quelque chose. Si ce quelque chose est la polémique, tout va bien. Si c'est autre chose, ça me va aussi.
Est-ce que vous proposez une émission qui relève de la confrontation ou du divertissement, Éric Nolo, ce soir?
C'est un mélange des deux. C'est pas moi qui l'ai inventé. Vous parliez de Tout le monde en parle, ça ressemblait un peu à ça. On n'est pas couché, c'est une très bonne définition.
Dont je rappelle que vous avez été un des tauliers à une époque.
Oui, à une époque, au tout début, avec le camarade Zemmour. Donc non, moi je veux qu'il se passe quelque chose, qu'on sorte de la pure promotion, parce que ça ne m'intéresse pas.
Je vous pose la question parce que en ce moment, lorsqu'on regarde du débat d'idées à la télévision, on a l'impression de regarder du divertissement. C'est-à-dire la part de l'idée se réduit de plus en plus, la part du divertissement ne fait qu'augmenter. Je vous fais écouter Pascal Praud qui anime l'heure des pros, pile à ce moment-là, en ce moment il est sur CNews, et qui s'emporte contre ses propres débatteurs.
C'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas.
Camomille.
Mais c'est juste insupportable.
Camomille.
Arrêtez.
Camomille.
Mais enfin, non, mais vous, moi, je peux plus animer une émission de télévision.
Camomille.
Annulez le café.
Je vous donne vraiment l'avis d'un téléspectateur. L'émission devient gênante et même insupportable avec ce brouhaha. Camomille. Je vous assure que c'est vrai. Tous les thèmes sérieux que vous traitez sont dévalorisés. Et l'image de ses invités qui vaut différemment.
Quelle est la différence, Éric Nolot, entre le clash et le bruit?
Là, ça relève pas tout à fait de ce que vous avez dit. Là, il n'y a pas un mélange entre le divertissement et le débat d'idées. Il se trouve que le débat d'idées devient le brouhaha.
En même temps, il rigole. Tout le monde rigole, ce plateau.
Il rigole de Pascal Praud qui s'énerve parce que c'est toujours marrant.
Mais qui devient un personnage de télévision.
Oui, c'est vrai. Après, moi, j'aime beaucoup Pascal Praud. Là, ce que je comprends pas, c'est que on peut pas attendre quand même d'un débat passionné que tout le monde respecte absolument le temps de parole de l'autre, dans le plus grand respect, l'écoute. On sait bien que ça va être le bordel et tout le monde attend un tout petit peu de bordel, un tout petit peu de pagaille. Mmh. Mais c'est vrai que, à force de subir ça, il a pété un plomb. Moi, je trouve la séquence drôle.
Elle est drôle. C'est pour ça que ça en devient du divertissement.
Qui dit Camomille,
alors qu'on est à 9h sur une chaîne d'info et qu'on est supposé faire un débat de société. C'est là toute la question. C'est que oui, c'est drôle. Ça en devient totalement comique. D'ailleurs, tout le monde se marre sur le plateau et devant sa télé.
Oui, mais enfin, c'est quand même un dérapage isolé. Franchement, c'est
Oui,
non, franchement.
Vous regardez pas souvent.
Bah, non, mais que Praud pète les plombs comme ça, s'emporte à ce point-là, ça arrive quand même pas tous les jours. Ça serait un peu répétitif comme numéro. Il était dans un mauvais jour, ça m'arrive.
Non, mais
je sais que ça vous arrive jamais, mais moi, par exemple.
C'est qu'il y a des clashs, en réalité. Le clash, c'est vraiment une espèce de moment de vérité à la télé, une espèce de confrontation qui n'est pas tellement un choc des idées, d'ailleurs, c'est vraiment un choc des personnes. Et en réalité, quand ça se produit, personne ne rigole. Souvent, il y a un grand silence autour, où on s'emporte, mais enfin, personne ne rit. Il y a une grande différence entre des clashs qui sont en fait devenus relativement rares à la télévision et cette sensation qu'il y a du bruit. Du bruit. Voilà.
Bah écoutez, dans Balance ton poste, il y a eu des clashs dans lesquels j'étais impliqué et il y avait beaucoup de bruit aussi.
Donc, c'est vrai.
Oui, bah avec Corbière, le ton est monté très fort, avec Athénins aussi, et il y avait beaucoup de bruit sur le plateau.
Et le bruit, c'est la marque du divertissement?
C'est la marque du débat. C'est la marque du débat. Tout le monde veut en être. Mais moi, je suis pas d'accord avec vous. Les clashs sont des confrontations d'idées. Ça peut être de personnes en même temps. Il peut y avoir des inimitiés, des différends, etc. Mais ça reste des confrontations d'idées. En tout cas, moi, quand je me suis affronté à des membres de la France Insoumise ou d'autres, eh bien, c'était quand même l'idée qui était la base du clash et pas seulement des questions de personnes.
Je voudrais qu'on dise un dernier mot sur vos chroniqueurs parce que vous allez faire tourner des chroniqueurs face à vos trois invités. Pour le coup, c'est un exercice que vous pratiquez depuis des années sur Paris Première, ça balance à Paris, une émission que vous avez beaucoup aimée, vous étiez très attaché.
Viscéralement
attaché et que la chaîne a arrêté au printemps dernier. Une émission faite de chroniqueurs, comment ça se fabrique ça justement?
Ben moi je sais pas si c'est mes années de foot, mais j'aime les bandes. J'aime les bandes, j'aime les équipes, j'aime travailler avec des chroniqueurs avec qui je suis en confiance. Alors là, vraiment, je peux pas travailler avec des inconnus. Mm-hmm. Donc là, c'est des gens que je connais très bien, Enora Malagré, que je connais très bien, Thierry Chess, qui est un frère, et Sophie Cos, qui a travaillé avec moi à Sa Balance à Paris. Et je pense qu'il y a deux sortes d'animateurs. Il y a l'animateur qui pense qu'il est plus important que l'émission, et celui qui pense que l'émission est plus importante. Et dans cette émission, il y a les chroniqueurs. Ils sont partie prenante. C'est pas Nolo et les autres un peu, c'est...
Et Cyril Hanouna, il arrive à être les deux en même temps.
Exactement.
Hein,
voilà. C'est ça. Mais je m'inspirais très peu d'Hanouna parce que seul Hanouna peut faire du Hanouna. Donc si vous attendez du Hanouna, ne regardez pas cette émission. Sinon, regardez.
Donc c'est à 23h30 après beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émissions présentées par Cyril Hanouna.
Absolument.
Et c'est sur C8. Merci Éric Nolot.
Merci à vous.